Qui n'a pas entendu parler de la brebis égarée de l'Évangile? Voici cette belle et fraîche parabole dans son texte et son contexte biblique. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Dans ce même chapitre de l'Évangile de Luc sont consignées deux autres paraboles, non moins exquises que celle-ci. La parabole de la pièce de monnaie perdue puis retrouvée et celle plus connue du fils prodigue. Ces récits se rejoignent en ce qu'ils expriment la grande sollicitude du Père qui cherche patiemment celui qui est perdu ou qui se perd. La parabole du fils prodigue est particulièrement touchante en cela. Elle dépeint, en des accents profondément humains, l'attente anxieuse et douloureuse d'un père qui scrute tous les jours l'horizon du chemin. Il aperçoit enfin la silhouette aimée qui revient à la maison. C'est alors un homme fébrile, parce que rempli d'émotion, qui court à la rencontre de son fils. Il se jette à son cou et l'embrasse et pleure et rit. Nous est-il jamais arrivé, en lisant ces récits, de nous dire que nous pourrions être, que nous sommes peut-être, cette brebis perdue, cette pièce égarée, ce fils qui fait mauvais usage de son temps, de son bien et de son énergie? Car toutes les brebis égarées ne se retrouvent pas, et malheureusement, tous les fils prodigues ne reviennent pas à la maison repentants. Relisons pour notre bénéfice la parabole du fils prodigue. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On a à juste titre appelé cette parabole « L'Évangile dans l'Évangile ». C'est toute l'histoire à la fois lamentable et touchante de l'homme qui a choisi de se séparer de Dieu par le péché et dont Dieu attend patiemment le retour. C'est toute l'histoire de la venue de Dieu sur la terre en la personne du Christ. L'image du pécheur en la personne du fils prodigue est saisissante. Regardez-le près des pourceaux dans une terre étrangère. Cette évocation était doublement intolérable à l'esprit des Juifs à qui Jésus raconta cette parabole. Car le porc était un animal impur, et l'étranger, un païen duquel il ne fallait pas s'approcher. Une phrase dans cette narration va déclencher la merveilleuse et douloureuse phase de la repentance. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Dans le mystère de son âme et dans le vide de son ventre, il comprend sa détresse, sa déchéance, sa solitude et son péché. Il est sur la bonne voie. Il y a de l'espoir en chaque homme, fût-il le plus vil, s'il consent à s'accorder quelque temps de réflexion profonde et sincère, car c'est le premier échelon de l'échelle qui mène jusqu'à Dieu. Le fils prodigue réfléchit, il pense à ce qu'il était et à ce qu'il est maintenant, et tandis que les porcs autour de lui se vautrent voluptueusement dans leur bourbier, il pense que sa condition est pire que la leur. À Sainte-Hélène, l'exilé impérial Napoléon confiait à un nommé Gourgaud « Ne t'imagines-tu pas les terribles moments que je passe lorsque je m'éveille la nuit, quand je pense à ce que j'étais et à ce que je suis ?» Mais il ne faut pas confondre regrets et repentance. Les regrets impliquent une certaine tristesse qui n'est pas nécessairement la repentance. Dans ce cas, ce sont des regrets stériles, c'est-à-dire qui ne produisent rien d'utile. La Bible déclare qu'il y a néanmoins une tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Qu'est-ce que cette repentance? Jésus nous en donne une image vivante, en la personne du prodigue. Après s'être examiné, il lui fait dire « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai » Notez bien la progression de ces trois verbes. « Je me lèverai ». Le péché dégrade, abaisse et avilit. L'extérieur d'un homme peut être superbe, riche et fier. Si l'âme est embourbée dans le péché, cet homme à l'apparence si noble est en réalité un fils prodigue, déchu, avili et pauvre. Mais s'il se repent, il se lèvera, il sortira de sa boue et portera les regards vers en haut, d'où viennent la lumière et la chaleur. Après s'être mis debout, il ira vers son Père. Il entreprendra un voyage pour échapper à l'attirance du péché. Il ira au-delà des limites matérielles et visibles pour poser les yeux de sa foi sur ce qui est invisible et durable. Puis il dira à son Père, « J'ai péché contre toi. » Un enfant de 5 ans jouait avec son petit chien. Le jeu était original. Il l'avait installé dans une bassine qu'il faisait glisser en cercle rapide dans l'appartement, au moyen d'une ficelle. Par 3 fois, son père essaya de tempérer l'ardeur du garçonnet, quand soudain, le véhicule improvisé et son précieux chargement dégringolèrent dans l'escalier. Le chien hurlait de frayeur. Le petit garçon, effaré, tentait de le consoler en le serrant contre sa poitrine. Puis, les yeux désespérés et ruisselants de larmes, il vint vers son père avec ces mots spontanés. « J'ai fait quelque chose de très mal. Je ne le ferai plus jamais. » Eh bien, voyez-vous, ça, c'est la repentance. Le grand mal, c'est que nous nous sentons tous, en général, assez bien portants, spirituellement. Qu'avons-nous besoin de repentance? Qu'avons-nous besoin de l'Évangile même? Si ce n'est sous la forme d'agréables petits sermons de moralistes, éloquemment dits, qui chatouillent notre sens de l'esthétique intellectuelle. La réalité que nous crie l'Évangile, c'est que nous sommes tous pécheurs et que nous mourrons tous dans nos péchés si nous ne nous repentons pas, même si nous nous sentons tout juste coupables de petits péchés inoffensifs. Dans cette perspective, l'Évangile prend soudain l'aspect d'une mauvaise nouvelle, puisqu'il nous rappelle notre véritable nature. En conclusion, nous insisterons sur la nécessité de faire de l'Évangile une application personnelle. Avant de s'adresser aux autres, il s'adresse d'abord à moi. Ainsi, malgré ma maison, ma voiture et mes vêtements, ne suis-je pas moi-même un fils prodigue? N'ai-je pas voulu me soustraire à l'autorité de mon Père céleste pour en faire à ma guise, pour accomplir ma propre volonté? Ne suis-je pas en train de gaspiller mon temps, mon énergie, mon argent et mes talents au lieu de le donner à Dieu, sans lequel je n'aurai rien de ce que je possède, sans lequel je ne serai jamais que ce que je suis, un pauvre pécheur? Jésus a dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Seigneur, que dire de tous les malades qui s'ignorent? Vienne le jour où ils se sentiront indisposés, où ils feront enfin appel au médecin de l'âme, qui les guérira par son sang, au berger qui les cherche depuis longtemps, au Père qui les attend depuis toujours.